Bonjour, aujourd'hui, le baptême de Clovis.
Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis. Charles de Gaulle.
D'histoire. Tout le monde a entendu parler de Clovis, mais on ne sait presque rien de lui. Ni la date de sa naissance, ni celle de son baptême, ni même l'endroit exact où il a été enterré. Petit-fils de Mérovée, qui donna son nom à la première dynastie des rois de France, fils d'un petit chef franc de Tournai, Clovis est surtout connu pour l'histoire du vase de Soissons, la victoire de Tolbiac et son baptême à Reims. C'était il y a 1500 ans, un jour de Noël, quand l'évêque Rémy demanda à ce prince païen de s'agenouiller devant lui en lui disant « Courbe la tête, fier sycambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé ». C'est ainsi, selon certains, qu'aurait commencé l'histoire de la France à laquelle Clovis a donné ses premières frontières, le nom de son peuple et même une capitale qui ne s'appelait pas encore Paris.
Des envahisseurs innombrables, venus de tous côtés, commencèrent à se disputer ce coin béni des dieux qui deviendra Paris après avoir été Lutèce. D'abord, ce furent les Gaulois, ayant Vercingétorix à leur tête. Puis, ce furent les Romains, conduits par Jules César. Et bientôt, ce furent les Huns, menés par Attila, terrible ravageur qui nous venait d'Asie. Enfin, ce furent les Francs, dont l'arme préférée se nommait la Francis. Or, quelque temps auparavant, une jeune fille était apparue qui était née à Nanterre vers 423. Cette jeune fille ne fut pas étrangère à la conversion de Clovis.
Max Gallo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez reconnu Sacha Guitry, bien sûr, dans Si Paris nous était compté. Alors vous, avec Saint-Martin, Bernard de Clairvaux, Clovis fait partie d'une trilogie que vous venez de publier chez Fayard. Est-ce qu'on peut dire, comme De Gaulle, que l'histoire de la France commence avec Clovis, Max Gallo?
C'est un grand débat. De Gaulle poursuit la phrase que vous avez commencée par les mots suivants. Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis. Choisi comme roi de la France par la tribu des Francs, qui donnèrent leur nom à la France, mon pays est un pays chrétien, et je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi chrétien qui porte le nom des Francs. Vous voyez que pour De Gaulle, il y a l'idée qu'il y a à la fois le nom, les Francs, la France, et il y a en même temps le baptême, et la France est un pays chrétien. Mais il y a un grand débat, certains vous diront que la constitution de la France, certains historiens auxquels je suis assez fidèle, je dirais, comme Duby ou Marc Bloch, vous diront que l'histoire de la France est un processus. Mmh. Un processus, la bataille de Bouvines, par exemple, la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc, sont des éléments qui, peu à peu, constituent une mémoire, parce que une nation se constitue quand on écrit sa légende et son histoire. Clovis fait partie de la légende française.
Là, vous donnez des exemples postérieurs. Et Clovis, il y en a quand même un qui est antérieur, c'est Vercingétorix, 5 siècles avant Clovis. Lui aussi, on peut dire qu'il a...
Dans le légendaire de l'histoire nationale, surtout sous la Troisième République, d'ailleurs, surtout sous la Troisième République, la référence à Vercingétorix est devenue incontournable. Mais ça a été long de faire entrer Vercingétorix dans la légende nationale. Vous voyez que De Gaulle, qui s'y connaissait en histoire de la France, avec une certaine idée de la France, préférait le choix de Clovis à cause du baptême.
Alors on sait très peu de choses, nous le verrons, sur Clovis, Max Gallo. On sait qu'il est né autour de 466, dans l'actuelle Belgique, on le pense. Mais ce qui est important aussi, c'est peut-être pour rappeler le contexte, c'est que l'histoire de Clovis, son règne sur les Francs, commence à un moment essentiel de l'histoire de l'Europe. C'est la fin de l'Antiquité, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est le début du Moyen-Âge. À quoi ressemblait ce qui deviendra la France à l'époque de Clovis?
Écoutez, c'était un ensemble de petites et de moyennes unités, car vous parlez de chute de l'Empire romain, les historiens qui veulent une date choisissent l'année 476, mais là encore,
Clovis a 10 ans.
Là encore, c'est un processus, la chute de l'Empire romain, qui prend bien un siècle. Et dans ce territoire, la Gaule occupée par les Francs, mais pas seulement les Francs de Clovis, les Francs ripuaires, les Francs saliens, ceux de Clovis, les Sicambres aussi, qui font partie de cet ensemble et qui recouvrent le nord de la France et la Belgique. Il y a au sud, dans ce qu'on appellerait l'Aquitaine, les Visigoths. En Bourgogne, il y a les Burgondes, et puis il y a aussi tous ces barbares qui viennent par vagues successives, et Sacha Guitry les rappelait, il y a les Huns, il y a les Alains, il y a les Vandales, etc., etc. Donc c'est un lieu de passage obligé, la France, et c'est en même temps un lieu de combat, et certaines tribus, employons le mot, des tribus qui commettent encore des sacrifices humains, qui sont païennes, ou qui appartiennent à des hérésies du christianisme, on appelle ça l'arianisme, d'un prédicateur qui s'appelait Arius. Certaines tribus vont peu à peu s'imposer, conquérant des territoires, assassinant les rivaux, et Clovis est l'un de ces chefs de tribus.
De Franck, donc un Franck.
Tribu des Francs saliens.
Qui donne son nom, qui vont donner leur nom à la France. Franck, je crois que ça veut dire courageux, quelle est la signification du mot ?
Courageux, célèbre, vigoureux, héroïque, voilà, un certain nombre d'appellations possibles.
Alors sa capitale est à Tournai, il va d'abord rassembler tous ses francs, dont il n'est qu'un des princes quand il devient roi, même des francs saliens à la mort de son père en 481, et puis il va agrandir ce territoire, d'abord contre un territoire qui est autour de Paris, au nord au nord de la Loire, qui est le territoire d'un Romain, d'un général romain, Siagrius. C'est contre Siagrius qu'il va remporter sa première victoire.
Sa première victoire dans la région du nord de la Loire, en effet, dans la région de Soissons aussi. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que à la fois l'Empire romain a disparu, et en même temps, chacun se réclame l'éclat de cet empire, des titres empereur, consul, auguste, est encore si fort que, au fond, tous ces chefs barbares vivent avec, au-dessus de leur tête, le souvenir de cet empire romain. Alors, Siagrus est un de ceux qui se prétend, un des successeurs et des héritiers de l'Empire romain. Il sera défait par Clovis et les Francs-Saliens, avec la neutralité bienveillante ou la prudence des Visigoths qui sont au sud, et c'est à partir de là que la figure de Clovis s'impose au fond dans ce territoire du nord de la Gaule, du nord de la France.
Et s'impose Max Gallo par une bataille. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. En revanche, on connaît bien l'histoire qui a suivi, c'est la bataille de Soissons et l'histoire du vase de Soissons.
Oui, c'est pas une histoire légendaire, pas seulement légendaire, parce qu'elle nous renvoie au rapport qu'avait le chef d'une tribu avec ses guerriers, qui était un rapport égalitaire. Quand il y avait bataille, il y avait butin, non seulement des esclaves, mais aussi des vases, bref, des objets précieux, et on mettait sur le champ de bataille, on entassait les différents objets, et le partage se faisait sans qu'il y ait priorité de la part du chef. Il devait, lui aussi, recevoir sa part par tirage au sort. Et c'est intéressant, l'histoire du vase de Soissons, car il y avait eu naturellement pillage des églises, car la Gaule avait déjà été christianisée en partie, notamment par Saint-Martin, et l'évêque de Reims, personnalité importante, Rémy, qui avait eu son église pillée, demande à Clovis de lui restituer, si cela était possible, un vase particulièrement sacré, qui était le vase. Et quand Clovis émet cette prétention de pouvoir reprendre ce vase hors tirage au sort, un guerrier très imprudent et téméraire, plutôt que d'accepter cette dérogation à la règle du partage, préfère briser en partie, et je dirais, cabosser ce vase. Et Clovis se soumet à cette loi de sa tribu, mais naturellement, il se rattrapera, je dirais, il se vengera un an plus tard, lors du passage en revue de ses soldats, découvrant, se souvenant parfaitement de celui qu'il avait ainsi humilié, d'une certaine façon, il va critiquer sa tenue et l'abattre d'un coup de Francisque, précisément.
La Francisque, qui, contrairement à ce qu'on croit, avec le symbole du pétainisme, n'avait qu'un seul côté. Alors, c'est extraordinaire, quand même.
Et, bien, ça, et naturellement, il rend le vase à Rémy. Ce qui noue déjà, ce qui montre en tout cas qu'il existait déjà des rapports réels entre l'Église et d'autre part Clovis. Et à ce propos, un mot pour lors de l'élévation de Clovis à la magistrature, à la tête de sa tribu en 481, à la mort de son père, nous avons une très belle lettre de Rémy à Clovis dans laquelle il lui dit ceci, je ne dis que la conclusion, amuse-toi avec les jeunes gens, mais délibère avec les vieillards, et si tu veux régner, montre-t'en digne, juge et agit en noble. L'Église est séparée du pouvoir politique, mais elle se soucie de la nature et de l'action de ce pouvoir politique.
Et puis elle s'intéresse beaucoup à Clovis, après cette fameuse victoire de Soissons, et cette histoire du vase, là, souviens-toi du vase de Soissons, c'est une phrase qu'on ne trouve pas dans votre livre, hein, Max Gallo, elle est archi connue par tous les écoliers de France, mais enfin bon. Mais donc l'Église s'intéresse à lui, il est un roi païen, un roi des Francs qui est païen, il épouse quand même une chrétienne, une Burgonde, hein, c'est un autre territoire qui est au sud-ouest de la France, c'est la Bourgogne.
Le roi duquel Gondebeau, il est en rivalité. Mmh. Et donc ce mariage n'est pas tout à fait un rapt, mais presque. Mmh. Je veux dire, il emporte la décision, mais il l'emporte parce que réellement il entraîne avec lui Clotilde et son entourage avec le dépit de Gondebeau, le roi des Burgondes.
Est-ce que c'est Clotilde, Max Gallo, sa femme, qui le pousse à devenir chrétien comme elle l'est elle ?
Elle a joué un rôle tout à fait fondamental, comme d'ailleurs Sainte Geneviève. Les femmes, ce sont des femmes d'origine germanique, l'une et l'autre. Ce sont des femmes indépendantes, et ça c'est intéressant, qui ne sont pas soumises à l'homme, fut-il roi des Francs. Et Clotilde va obtenir de Clovis le droit de baptiser les enfants qu'elle a, alors que lui n'est pas encore baptisé. Malheureusement, ses enfants meurent, un de ses enfants en tout cas meurt, si bien que on sait que Clovis s'est demandé si, au fond, le fait qu'il ait accepté de renoncer pour son fils à la religion païenne n'était pas la cause de cette mort. Donc il y a hésitation chez lui. En même temps, c'est un fin politique. Nous n'avons pas d'écrit de lui. Le seul écrit que nous possédions, enfin les seuls textes que nous possédions sont de Grégoire de Tours, cet historien qui a écrit une histoire des Francs. Et le rapport de Clovis avec l'Église, avec le Tilde montre qu'il a compris que dans ce pays de Gaule ou de France naissante, où l'anarchie existe, le chaos existe, les évêques, c'est-à-dire l'Église, sont une puissance administrative et politique avec laquelle il doit compter.
Il y a donc du calcul autant que
c'est de la conviction. À mon avis, c'est un très grand politique.
Ouais, ouais. Alors, on dit aussi qu'il s'est converti à la suite d'une promesse qu'il avait faite s'il gagnait une bataille. On ne sait pas très bien si c'est Tolbiac ou une autre.
Bataille contre les Alamans. Et en effet, il aurait, on a un texte d'après Grégoire de Tours, il aurait promis, en cas de victoire, le combat était incertain, de se faire baptiser à Reims par Rémy.
Alors il bat les Alamans, il tient parole, se convertit, se fait baptiser. Le récit de sa conversion et du baptême de Clovis, justement par le seul témoin dont nous disposions, un chroniqueur d'ailleurs qui est postérieur à Clovis, il est né après la mort de Clovis, Grégoire de Tours, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Et sur la conversion de Clovis, d'abord, Grégoire de Tours montre bien qu'elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu pour ça toute la persuasion de sa chère épouse. La reine Clotilde, écrit Grégoire de Tours, ne cessait de prêcher pour que Clovis connaisse le vrai Dieu et abandonne les idoles. Les dieux que vous vénérez ne sont rien, lui répétait-elle. Ce sont des idoles de pierre, de bois ou de métal. Mais, déplore Grégoire de Tours, la reine avait beau dire, le cœur du roi restait insensible aux sollicitations de la foi. Jusqu'au jour où il arriva, écrit encore Grégoire de Tours, lors du conflit avec les Alamans, que l'armée de Clovis fut sur le point d'être complètement exterminée. Il éleva alors les yeux au ciel et, ému aux larmes, il s'écria « Ô Jésus-Christ, si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. » À peine avait-il prononcé ces paroles que les Alamans, tournant le dos, commencèrent à s'enfuir. Et ensuite, comme par miracle, le peuple de Clovis aussi choisit de se convertir. « Les dieux mortels, nous les rejetons, pieux roi, et c'est le dieu immortel que nous sommes prêts à suivre. » Cette nouvelle est portée à Rémy, l'évêque de Reims, qui, rempli d'une grande joie, fit préparer une piscine. Grégoire de Tours, alors, va décrire la très belle cérémonie du baptême de Clovis. On orne les places d'étoffes teintes, on pare les églises de tentures blanches, on dispose de baptistères, on le parfume, les cierges brillent et exhalent leur odeur, tout l'édifice embaume d'un parfum divin au point que l'assistance croit respirer les odeurs du paradis. Alors, il faut imaginer l'émerveillement que ces couleurs, ces parfums peuvent provoquer sur les hommes du haut Moyen-Âge. Ensuite, poursuit Grégoire de Tours, ce fut le roi Clovis qui le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s'avance, nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir d'une vieille lèpre et effacer de vieilles taches avec de l'eau fraîche. Au moment où Clovis allait être baptisé, le saint de Dieu l'interpella d'une voix éloquente. « Courbe humblement la tête, ô sycambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Ainsi donc, le roi fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et oint du Saint-Crème au moyen du signe de la croix du Christ. Plus de 3000 hommes de son armée furent également baptisés.
Alors c'était le baptême de Clovis par Grégoire de Tours. Un baptême, on ne sait pas très bien quand il s'est passé, 496, 498.
C'est le 5 décembre 499. Mais ce baptême a des faits, comme vous l'avez dit, et comme on l'entrevoit à travers le texte de Grégoire de Tours, ce baptême a été le produit d'une longue méditation de la part de Clovis, d'après ce que l'on sait, puisqu'il y a du temps qui se passe entre la victoire, probablement près de 3 années entre la victoire et le baptême. Car il fallait évidemment, et là ce sont les considérations politiques qui jouent, et on les comprend aisément, elles sont contemporaines, il fallait que Clovis entraîne avec lui sa garde rapprochée, les Antistustrions, qui étaient plus de 3000, qui étaient vraiment le fer de lance, et qu'il les fasse basculer lui aussi dans la foi nouvelle. Il ne fallait pas que ce baptême le coupe brusquement de sa force armée. Donc il y a beaucoup d'hésitation de sa part, et finalement il va franchir le pas. Et ce qui est intéressant, c'est que si nous n'avons pas d'autres détails que ceux que donne Grégoire de Tours, nous avons des lettres. Par exemple, je vais vous en citer une très brièvement, qui est la lettre de l'évêque de Vienne, dans le Rhône, qui était en territoire burgonde, et qui n'était donc un adversaire potentiel de Clovis, qui ne s'était pas déplacé, mais qui dit ceci, il conforte Clovis dans sa décision. « Votre poitrine sans tache, débarrassée de la cuirasse et brillant de la même blancheur que votre robe de catéchumène, n'en doutez pas, roi puissant, ce vêtement si molle donnera désormais plus de force à vos armes. Tout ce que jusqu'à aujourd'hui vous deviez à une chance heureuse, vous le devrez à la sainteté de votre baptême. » Ce baptême va faire de Clovis l'allié de l'Église, à la fois contre les barbares, et contre les autres peuples, les Visigoths, les Burgondes, contre les Huns ou les Alamans, et aussi contre ces peuples qui sont des hérétiques par rapport à l'Église, je l'appellerai orthodoxe, c'est-à-dire simplement catholique.
C'est un marché, en fait, Clovis, c'est un marché, voit c'est une manière de légitimer son pouvoir, et l'Église voit le moyen, justement, d'étendre son autorité, puisque c'est elle qui va, j'allais dire, sacrer. C'est pas un sacre, qui baptise.
C'est un baptême, c'est un baptême tel que le décrit Grégoire de Tours, et je saute un peu sur les années, Clovis meurt en 511, mais c'est intéressant, cette année-là, avant la mort de Clovis, il y a un concile qui se tient à Orléans, et là encore nous voyons les aspects politiques des choses, puisque la résolution, je dirais, des évêques, le 10 juillet 511, dit ceci, « Puisqu'un si grand souci de notre glorieuse foi vous excite au service de la religion, que dans le zèle d'une âme vraiment sacerdotale vous nous avez réunis, sachez que le consentement d'un si grand roi augmentera l'autorité des résolutions prises en commun par une si nombreuse assemblée de prélats. Là, on voit bien, les évêques comptent sur le glaive de Clovis pour propager la foi.
Alors, le glaive de Clovis, il va encore beaucoup s'agiter après ce baptême. Max Gallo, il va achever d'agrandir son royaume après avoir rassemblé des francs, après avoir conquis le royaume, entre guillemets, de Siagrius. Il va également battre les Visigoths dans une autre bataille, à Vouillé, je crois.
Il va parcourir tout cet ouest de la France. Il est à Bordeaux, il est à Toulouse, il s'empare du trésor des Visigoths qui lui-même provenait du trésor de Rome. Bref, il s'enrichit en terre et en biens.
Oui, alors, et puis aussi, donc, on a l'impression qu'il ne fait au fond que la guerre, Max Gallo.
C'est un règne qui dure 30 ans. Hein. Il est roi des Francs en 481, oui. Il a 15 ans, il meurt en 511, ne le comprimons pas trop, il y a 30 ans, il ne fait pas que la guerre. Oui. Mais enfin, la guerre est là, présente.
Son nom, il faut le rappeler, je crois que c'est Clodovicus, c'est célèbre au combat.
Célèbre guerrier.
Il a laissé d'autres choses, Max Gallo. Il fait de Paris, pour la première fois, un souverain s'installe à Paris, en fait sa capitale. Okay. Il est l'auteur aussi de la loi salique,
qui tentait de substituer des amendes à des meurtres pour la succession. C'était ça. Au lieu de livrer les épouses aux chiens et de les tuer, on les enfermait, on leur faisait payer une avance. Ouais.
En même temps, on les écarte et on écarte les femmes en général du royaume. Hein. C'est ça la loi salique. Les femmes ne peuvent pas régner en France.
Il y a aussi tout un système juridique qui civilise la violence.
Alors, cela dit, il va quand même, on dit qu'il a unifié la France, il meurt en 511 et même si le trône ne passe pas entre les mains d'une femme, il passe entre les mains de ses quatre fils. Au fond, il se passe un peu ce qui s'est passé avec Charlemagne. La France unifiée se disloque tout de suite après sa mort en 511.
En tout cas, et elle se disloque dans le sang, car l'après-Clovis, après la mort de Clovis en 511, ses quatre fils, il y a une fille, Clotilde aussi, vont se déchirer, se tuer, s'entretuer, et même tuer leurs descendants. Donc le sang est encore, je dirais, l'aliment de cette histoire.
Alors, 1500 ans après sa mort et après son baptême, eh bien, on se souvenait à nouveau de Clovis. C'était à l'occasion d'un voyage du pape à Reims, 15 siècles donc après le baptême de Clovis. France Inter, Fabrice Le Quintrec, le 19 septembre 1996.
France Inter. Il y a 1500 ans, le roi des Francs, Clovis, sur le conseil de son épouse, la reine Clotilde, se faisait baptiser à Reims. Et pour commémorer cet événement, le pape Jean-Paul II est attendu ce matin. Il y aura sans doute tout à l'heure entre 100 et 200 000 personnes pour assister à la messe célébrée par le pape et pour se rappeler les origines chrétiennes de la nation française.
La France veut faire mémoire de l'un des moments marquants de ses origines. C'est tout à l'honneur de la France que de surmonter les différences légitimes d'opinion pour rappeler que le baptême de Clovis fait partie des événements qui l'ont façonné.
Alors c'était le pape à Reims en 1996, Jean-Paul II, à l'occasion du 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Un voyage et une commémoration qui ont été très controversées, Max Gallo. Comment se fait-il que 15 siècles après Clovis, on se dispute encore en France à propos de cette commémoration?
Nous savons bien que la France a été divisée par des luttes religieuses intenses et que le thème de l'origine chrétienne de la France, ou aujourd'hui de l'Europe, on en parle aujourd'hui de savoir s'il faut mettre ou non, le pape l'aurait demandé à Giscard d'Estaing, savoir s'il faut mettre ou non une référence aux origines chrétienne de l'Europe, si l'Europe est un club chrétien, après tout cela peut se poser avec la victoire des islamistes modérés en Turquie qui doivent entrer dans l'Europe. Bref, cette question de la référence à Clovis aux origines chrétiennes de la France est une question qui est toujours contemporaine et qu'on ne peut pas écarter simplement d'un mot. Moi je suis de l'avis d'un historien, Marc Bloch, qui a été fusillé par les Allemands en 1944 et qui dans un livre célèbre sur la guerre de 40 qui s'appelait L'étrange défaite, dit ceci. Alors il fait référence au sacre, lui, des rois à Reims, dit ceci: il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France, ceux qui n'ont pas été émus par le sacre de Reims et ceux qui n'ont pas vibré à la fête de la Fédération en 1790. Moi je suis pour qu'on prenne en compte toutes les tous les aspects de l'histoire nationale. Et Clovis fait partie de notre histoire nationale, ne fût-ce que parce qu'on l'a écrite ainsi.
Et Clovis fait partie d'une trilogie que vous venez de publier chez Fayard, où il est question de Clovis dans le deuxième volume, où il est question de Saint-Martin dans le premier, où il est question de Bernard de Clairvaux dans le troisième. Quel rapport y a-t-il entre ces trois personnages, Clovis, Saint-Martin, Bernard de Clairvaux, et quel rapport surtout y a-t-il avec Max Gallo, hein, le biographe quand même de Jaurès?
Je vous ai donné cette, par anticipation, si je peux dire, cette pensée de Marc Bloch à laquelle je me réfère, et je crois que ces trois personnages, Martin, Clovis, Bernard, Saint-Martin, Clovis et Saint-Bernard, sont des personnages qui sont un peu des môles dans l'histoire nationale, et l'un évangélise et manifeste la compassion et la charité, c'est Saint-Martin, l'autre Clovis, c'est le baptême. Et quant à Saint-Bernard, c'est à la fois un intellectuel, un mystique, parfois un fanatique, et surtout le constructeur de l'ordre cistercien, ces abbayes qui sont des éléments essentiels de notre patrimoine.
Et Max Gallo, en deux mots, le rapport entre les trois et Max Gallo, parce qu'on ne vous attendait pas sur ce terrain, Max Gallo.
Je suis chrétien, mais là j'ai tenu à le manifester parce que je crois qu'il faut dire un certain nombre de choses.
Eh bien, vous le manifestez précisément dans une série de livres, Les Chrétiens, qui a été publié chez Fayard, Les Chrétiens, dont le deuxième volume est consacré à Clovis et est intitulé Le baptême du roi. Vous avez pu entendre un extrait de Si Paris nous était conté, un film de Sacha Guitry, disponible chez René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou encore consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation, Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser. Archivina, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Cette émission avait déjà été diffusée le 7 novembre 2002 et demain dans